journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le chômage repart à la hausse en février, plus 1,1%. Toutes les catégories sont touchées. Les explications d'Anne Fauquemberg dans un instant. La mobilisation contre la loi travail semble s'essouffler. Quelques dizaines de milliers de manifestants et de nombreux incidents. Aujourd'hui, à Paris, la police des polices enquête sur une possible bavure. Salah Abdeslam veut être transféré en France. Deux jours après les attentats de Bruxelles, le djihadiste français se dit prêt à s'expliquer dans son pays. Invité de ce journal, Pierre Conessa, spécialiste des réseaux djihadistes. Radovan Karadzic, l'ancien chef des Serbes de Bosnie, condamné à 40 ans de prison pour génocide et crimes de guerre. La justice internationale a finalement rattrapé le théoricien de la purification ethnique. Le chômage a donc rechuté en février, 38 400 demandeurs d'emploi supplémentaires, soit au total 3 590 000 personnes privées d'emploi. Il s'agit là d'un nouveau record et c'est la plus forte augmentation mensuelle depuis septembre 2013. Anne Fauquemberg, si l'on regarde les chiffres en détail, la hausse du chômage est désormais généralisée.
C'est une hausse brutale qui affecte toutes les catégories d'âge. Les jeunes de moins de 25 ans qui connaissaient pourtant une baisse quasi continue du nombre d'inscrits depuis un an, mais aussi les seniors et les 25 à 49 ans. Pour les chômeurs longue durée, la hausse ne s'élève qu'à 0,3% sur un mois, mais sur un an, elle grimpe à 8,5%. Oubliez donc l'embellie du mois de janvier, embellie qui avait d'ailleurs été entachée par des événements inhabituels et inexpliqués selon la DARES, le service statistique du ministère du Travail. En fait, de nombreux demandeurs d'emploi avaient oublié de s'actualiser. On assiste donc peut-être à un rattrapage. Le ministère du Travail parle au contraire de mouvement de bascule. Selon Myriam El Khomri, ce rebond est expliqué en grande partie par l'entrée en catégorie A de personnes déjà inscrites à Pôle emploi, mais qui exerçaient une petite activité les mois précédents en lien avec les catégories B et C. La ministre qui relativise donc cette hausse spectaculaire, Myriam El Khomri obligée de jouer l'optimisme. Elle rappelle que le plan d'urgence pour l'emploi annoncé par François Hollande est seulement en train de se mettre en place. L'aide embauche PME a aini comptabilisé en quelques semaines plus de 100 000 demandes, selon la ministre. Le gouvernement veut encore croire à l'inversion de la courbe du chômage. Il s'accroche aux prévisions de l'INSEE. L'Institut de la Statistique table sur un taux de croissance de 0,4% au premier comme au deuxième trimestre, ce qui permettrait au chômage de passer sous la barre symbolique des 10% en métropole les prochains mois.
Anne Fauquemberg, merci. Alors pour résorber le chômage, le gouvernement compte aussi bien sûr sur la loi travail, présentée ce matin en Conseil des ministres. Mais le texte même remanié continue à être contesté dans la rue, selon le ministère de l'Intérieur. 43 000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans toute la France à l'appel des principaux syndicats et lycéens. Une mobilisation en baisse par rapport à la semaine dernière, où les chiffres officiels faisaient état de 69 000 manifestants. Mais surtout, il y a eu de sérieux incidents en marge des cortèges à Marseille, à Nantes, à Rouen ou à Paris. Selon le ministère, au total, 45 manifestants ont été interpellés et 10 policiers blessés. Et puis à Paris, la police des polices enquête sur une suspicion de bavure. Un jeune frappé par un policier devant le lycée Bergson dans le 19e arrondissement. La scène filmée a fait le tour des réseaux sociaux. Antoine Gignot s'est rendu sur place.
Ils se disent choqués et en colère, les lycéens, avant de raconter. C'est en milieu de matinée que la manifestation a dégénéré. Vers 10 heures, après avoir chanté des chansons et crié des slogans, plusieurs élèves commencent à lancer des œufs sur les forces de l'ordre, puis mettent le feu à une poubelle. Les CRS et les policiers chargent une première fois, interpellent quelques lycéens, avant de poursuivre un petit groupe d'adolescents qui se réfugient à 300 mètres de l'établissement. L'un d'entre eux, un élève de seconde, est plaqué au sol. Des policiers lui ordonnent de se relever, puis lui assènent un violent uppercut. Il s'écroule. C'est cette scène qui a été filmée et mise en ligne cet après-midi sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas le seul acte de violence. Au total, 3 élèves au moins auraient subi des coups, des mauvais traitements, traînés pour l'un d'entre eux sur plusieurs dizaines de mètres les menottes au poignet. D'autres ont essuyé des insultes et des coups de matraque. Un lycéen qui avait pris lui aussi des photos et des vidéos raconte que les policiers l'ont menacé avec un taser pour qu'il efface ses clichés et leur donne son téléphone portable. Les professeurs, eux, ne font aucun commentaire, même si l'un d'entre eux se dit soulagé par l'ouverture d'une enquête, car même s'il n'y a pas de plainte pour l'instant, le préfet de Paris a saisi la police des polices et le parquet de Paris a décidé, lui aussi, d'ouvrir une enquête préliminaire sur le sujet.
Antoine Gignot, merci. Première réaction du ministre de l'Intérieur ce soir. Ces images sont choquantes et m'ont choqué, a déclaré Bernard Cazeneuve. Aucune violence, d'où qu'elle vienne, ne peut être tolérée, a ajouté le ministre. À Bruxelles, le gouvernement belge a rendu aujourd'hui un hommage solennel aux victimes des attentats de mardi, mais il a aussi reconnu des erreurs dans la lutte contre le terrorisme. Comment expliquer par exemple qu'Ibrahim El-Bakraoui, l'un des kamikazes, n'ait pas été repéré après son expulsion de Turquie l'été dernier? Les ministres belges de l'Intérieur et de la Justice ont présenté leur démission, mais le Premier ministre Charles Michel les a refusées. Du côté de l'enquête à présent, les policiers belges sont désormais certains qu'il existe un lien entre les terroristes de Bruxelles et les attentats de Paris. L'autre frère, El-Bakraoui, Khalid, avait loué à Charleroi un appartement utilisé par certains djihadistes du 13 novembre. Quant à Salah Abdeslam, arrêté à Molenbeek la semaine dernière, il serait maintenant d'accord pour être remis aux autorités françaises, Catherine Dutu.
Et c'est un revirement dans la défense du Français de 26 ans. La France réclame, on le sait, son transfèrement dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. C'est une procédure purement judiciaire, plus rapide et plus simple qu'une extradition classique qui se joue, elle, entre gouvernements. Mais samedi, au lendemain de son arrestation, Salah Abdeslam avait indiqué via son avocat qu'il refusait son transfèrement vers Paris. Revirement donc aujourd'hui. Son avocat Sven Marie s'en explique.
Monsieur Salah Abdeslam m'a donné son souhait de vous faire part qu'il souhaitait partir en France le plus vite possible. Je pense qu'il a compris qu'au fait, le dossier ici, ce n'est qu'un petit morceau ici, le dossier. Donc je pense qu'il veut s'expliquer en France. Je pense que c'est vraiment une question de semaines et il passera le 31 mars en audience pour exécuter le mandat d'arrêt européen. Et je pense qu'après le 31 mars, il faudra éventuellement qu'un jour, il n'y aura pas d'appel, il n'y a plus de contestation. Donc voilà, on va suivre sa volonté, c'est une très bonne chose.
Est-ce un véritable changement de stratégie ou bien Salah Abdeslam a-t-il compris que son transfèrement vers la France était inéluctable? Il ne peut en effet bénéficier que d'un seul recours face au mandat d'arrêt européen devant la Chambre des mises en accusation à Bruxelles. Cette cour d'appel est chargée d'examiner la légalité du mandat. Si le document est signé et daté en bonne et due forme, si les articles de loi sont correctement indiqués, peu de motifs donc de ne pas être transféré vers la France. Sans recours, la procédure dure au maximum 2 mois. Les survivants des attentats du 13 novembre et les proches des victimes n'attendent que cela.
Catherine Dutu, merci. Invité de ce journal, Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des filières djihadistes. Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre Conessa, peut-on dire ce soir que les terroristes de Bruxelles et ceux de Paris appartiennent à une seule et même cellule djihadiste?
Moi, je dirais qu'ils appartiennent à un même réseau, ce qui est plus large que la cellule, hein, parce que il y a de toute façon des liens qui se font avec la Syrie et de toute façon le niveau même de technicité des attentats prouve qu'on a un savoir-faire qui est très important et une planification qui effectivement renvoie plutôt à l'idée d'un réseau qu'à l'idée d'une cellule.
Comment vous expliquez l'échec des autorités belges à empêcher les attaques de Bruxelles 4 jours seulement à peine après l'arrestation d'Abdeslam?
Bon, je crois qu'il faut renverser un peu l'ordre des facteurs. De toute façon, c'est toujours le terrorisme qui a l'initiative. Hein. Il ne faut jamais oublier ça. Le terrorisme a pour vocation toujours à essayer de prendre l'initiative et de frapper là où on est le plus faible. Donc s'ils ont frappé effectivement sur une gare et sur un aéroport, c'est l'exemple même de lieu de public qu'on ne peut absolument pas protéger totalement. Moi, je renverserai un peu l'ordre des facteurs. Vous savez, je trouve que c'est l'Europe plutôt qui a fait faillite dans l'histoire. C'est-à-dire que on le constate avec ces attentats, dès qu'il y a une frontière dans l'organisation d'un réseau terroriste, on sait que les polices et les services de renseignement sont très entravés par la réglementation européenne. Et donc, c'est l'Europe qui a fait faillite dans cette affaire. C'est pas la Belgique ou la France.
Dans quel sens l'Europe a fait faillite? C'est dans la surveillance des frontières?
Non seulement dans la surveillance des frontières, mais dans l'harmonisation des réglementations. Quand vous pensez que le PNR, c'est-à-dire ce plan de surveillance des déplacements aériens, est bloqué au Parlement européen par la représentation danoise, on se dit qu'on n'est pas du tout dans le même monde. Donc, rappelez-vous qu'après le 11 septembre, il a fallu une quinzaine de jours pour que les Américains mettent en place un système de surveillance des déplacements aériens. Nous, on est 2 ans après, on est 10 ans après le 11 septembre. On est toujours à réagir a posteriori. Et ça, c'est dramatique, parce que ça veut dire que l'Europe ne peut avancer que parce qu'il y a des attentats. C'est dramatique comme constat.
Mais le PNR n'aurait pas pu empêcher les attentats de Bruxelles qui ont été commis par des gens qui étaient sur place, des djihadistes belges?
Absolument, absolument. Mais enfin, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a eu des retours de Syrie, on est passé à travers les mailles du filet parce que soit les instructions n'ont pas été données, soit parce qu'elles n'ont pas été suivies. Donc moi, je pense qu'on va aller progressivement vers un parquet antiterroriste européen et je pense que ce sera la seule solution pour ne pas avoir à chaque fois à passer toutes les strates judiciaires qui permettent à des terroristes de différer. Rappelez-vous le cas de Rachid Ramna. La France a mis 10 ans à obtenir son extradition de Grande-Bretagne.
Est-ce qu'il faut renforcer l'arsenal législatif contre les djihadistes ?
Oui, je pense. Et puis surtout, si vous voulez, il faut revenir sur un débat qu'on a eu en France et qui s'est posé plus sur le plan des principes que sur le plan de la réalité. Quand on voit l'organisation des attentats en France et en Belgique, on a affaire à un réseau. Et l'important dans la procédure de déchéance de nationalité, c'est que c'est justement tous les organisateurs du réseau qu'il faut viser. Celui qui se fait sauter, effectivement, c'est fini, son histoire est réglée. Mais tous ceux qui ont servi à préparer les ceintures d'explosifs, à préparer la logistique, à fournir les sanctuaires, etc., sont des gens qui sont plus dignes de vivre en Europe. Et donc, encore une fois, les procédures de déchéance sont une manière de renvoyer, si vous voulez, tous ces gens vers d'autres horizons, alors qu'aujourd'hui, on est en train de se débattre, si vous voulez, sur des principes au lieu de discuter sur la réalité de la menace.
Mais est-ce que vous pensez que la déchéance de nationalité est susceptible de dissuader les djihadistes de passer à l'acte ?
Non, elle est susceptible de dissuader tous les gens qui savent que de toute façon ils seront condamnés qu'à des peines qui leur permettront ensuite de revivre tranquillement dans le même ensemble. Et on voit dans le cas d'ailleurs des attentats de novembre à Paris que les mêmes individus qui avaient déjà précédemment été suspectés ou condamnés, si vous voulez, après avoir effectué leur peine, continuent à fournir une base logistique ou un système de soutien. Et donc encore une fois, on ne peut pas continuer à penser qu'on va lutter contre le terrorisme salafiste djihadiste en pensant que les mêmes individus après la prison se sont amendés et puis qu'ils sont devenus de bons citoyens. On le voit avec beaucoup des profils qu'on retrouve en novembre, avec des gens qui ont eu plusieurs fois des pratiques violentes ou qui ont aidé à des pratiques terroristes et puis qui ensuite continuent à professer exactement les mêmes opinions.
Alors justement, Pierre Conessa, le salafisme que vous évoquiez et qui se répandrait dans les banlieues belges ou françaises, est-ce que c'est ce salafisme qui est à l'origine du djihadisme européen ?
Ah oui, incontestablement. Le salafisme, ça même a été défini par un théologien musulman français de manière assez simple. Il m'a dit le salafisme, ou si vous préférez l'appeler le wahhabisme, c'est la forme la plus sectaire, la plus raciste, la plus antisémite, la plus homophobe et la plus misogyne de l'islam. Bon. Quand vous avez effectivement tous ces gens qui sont tous considérés comme des malfaisants, des mécréants ou des êtres impurs, vous avez une légitimation intellectuelle de la violence. Et donc ensuite, le passage à l'acte, il est légitimé par le fait qu'on va présenter les musulmans comme des victimes. Et donc on est sur un terreau qui est exactement comme si on s'était demandé si Hitler était vraiment antisémite avant-guerre. On a sur une idéologie qui est une idéologie totalitaire religieuse, qui est la plus anti-républicaine qui soit. Et donc il faut arrêter de qualifier l'islam radical ou parler de termes génériques. Il y a une pratique de l'islam qu'il faut absolument combattre.
Pierre Conessa, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je renvoie à votre dernier ouvrage, Le guide du petit djihadiste à destination des adolescents, des parents, des enseignants et des gouvernants. Livre paru chez Fayard en janvier dernier. 21 ans après la fin de la guerre en Yougoslavie, Radovan Karadzic a été condamné aujourd'hui à 40 ans de prison par le Tribunal pénal international. L'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, reconnu coupable de génocide, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, Karadzic, c'était un peu le théoricien de la purification ethnique qui allait déboucher, notamment sur le massacre de Srebrenica. Les explications de Pierre Benazé.
Celui qui fut entre 1992 et 1996 le président de la République serbe de Bosnie échappe à un seul des chefs d'accusation, celui qui concernait des accusations de génocide pour des faits commis en 1992 dans 7 districts de Bosnie à l'encontre de bosniaques musulmans et de bosno-croates. Radovan Karadzic est en revanche condamné pour l'ensemble des 10 autres chefs d'accusation, en particulier pour génocide, pour le massacre de Srebrenica, où plus de 8000 bosniaques musulmans ont été tués en juillet 1995. Un massacre commis sur l'ordre de Radovan Karadzic, ont conclu les juges du TPI. Chef politique des bosno-serbes, il est jugé responsable de la campagne de purification ethnique menée dès le début du conflit en Bosnie. À ce titre, Radovan Karadzic est aussi condamné pour les 44 mois du siège de Sarajevo, qui a fait 10 000 morts, ainsi que pour la prise d'otages d'observateurs de l'ONU en mai et juin 1995. On se souvient des images des soldats onusiens menottés à des ponts au moment de la campagne de bombardement menée par les avions de l'OTAN contre les troupes bosno-serbes.
Pierre Benazé, merci. En Syrie, l'armée de Bachar al-Assad est entrée aujourd'hui dans Palmyre, la ville antique conquise par l'État islamique en mai dernier. Les soldats du régime sont appuyés par les miliciens du Hezbollah libanais et par les frappes aériennes russes. Les combats se poursuivent ce soir. Retour en France avec la météo demain, de la pluie sur une large partie du pays. Au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon, il y aura de la neige en montagne. Au sud, un ciel souvent voilé avec quelques gouttes possibles. Les températures maximales, 6 à 15 degrés du nord. au sud et des pointes à 19 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec François-Charles Domergue.